La Première Podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
C'était il y a 70 ans, Caroline, le 27 janvier 1945, était libéré le camp d'Auschwitz-Birkenau.
Oui Laurent, il y a exactement 70 ans, enfin à quelques heures près, c'était le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich. On estime que plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs, pour 90% d'entre elles, y ont trouvé la mort. Ces jours-ci, vous le voyez comme moi, les commémorations, les hommages se multiplient. Et ce soir, sur La 3, on vous propose un documentaire réalisé par Hugues Lanneau, qui date de 2007, et qui évoque le sort des Juifs de Belgique. On parle de nous, des lieux que nous connaissons bien et c'est sans doute pour ça qu'il nous touche autant. Ce documentaire s'intitule Modus Operandi, mode opératoire. Et j'ai commencé par demander au réalisateur comment ce titre avait été choisi.
Mais Modus Operandi, mode opératoire, c'est le sujet du film et dans le titre. C'est un film qui n'explique pas pourquoi les Allemands ont déporté 25 000 personnes en Belgique juives, mais c'est un film sur le comment. Le film démontre étape par étape comment les Allemands ont mis en place toute cette mécanique qui va entraîner progressivement et à la fin, enfin pendant la seconde partie de la guerre, 25 000 personnes vers les camps de la mort.
Mmh, parce que tout ça a été extrêmement calculé, on va en parler. C'est la première fois que cette idée du comment a été vraiment étudiée, travaillée en profondeur dans un documentaire.
Oui, c'est effectivement une première tentative de questionnement sur le comment. Il y a eu d'autres documentaires par la suite qui se sont attachés à cette question. Mais effectivement, on a été les premiers, en tout cas, à se poser la question de savoir en Belgique comment l'occupant allemand s'y est pris pour mettre en place toute cette machinerie au nez à la barbe de la population et des autorités belges pour finalement organiser ce meurtre de masse.
Mmh. C'était en 2007 qu'a été réalisé ce film. 2007, il n'y a pas de date anniversaire particulière. Pourquoi ce film à ce moment-là ?
Il n'y a effectivement pas de date anniversaire qui justifie la sortie du film. Disons que quand le producteur, donc qui est d'origine juive, Willy Perelstein, m'a proposé de faire ce film, lui étant touché de très près par ce qui s'est passé, ce qu'on raconte dans le film, souhaitait collaborer avec un réalisateur non juif pour mettre en place cette production, parce qu'il estimait qu'il était grand temps de faire quelque chose à ce moment-là. C'était la période où les derniers témoins pouvaient encore témoigner, en tout cas pour les survivants. Je ne pense pas qu'on pourrait encore faire ce film actuellement. D'ailleurs, dans le film, à l'époque, j'avais déjà collecté toute une série d'interviews d'émissions antérieures.
Ouais.
Pour essayer d'avoir un aperçu complet des événements. Et moi-même, j'ai interviewé trois rescapés juifs pour compléter le propos du film.
Mmh. Donc vous êtes entré dans le projet au moment où le scénario était déjà écrit ?
Alors le scénario était préécrit. Ce n'était pas vraiment un scénario, c'était disons une longue mise en place de ce qu'on voulait raconter dans le film, qui était effectivement une première écriture de scénario, mais que j'ai moi-même réadapté pour les besoins du film.
Mmh, ça a demandé beaucoup de recherche, ça. Parce que vous le dites, hein, y a des interviews qui étaient préexistantes. Vous êtes allé rechercher pas mal d'images d'archives aussi. Long travail préparatoire ?
Long travail préparatoire qui a été fait par la sœur de Willy Perelstein, donc Diane,
ouais,
qui a effectivement écrit cette première écriture de scénario, qui a donc entamé de longues recherches avec l'aide d'historiens aussi, notamment du CEGES, pour essayer de... Parce que c'est un sujet très vaste. Il fallait trouver un angle d'attaque. Donc très vite, s'est imposé la question du comment.
Mmh.
Pour, je dirais, cerner en une heure et demie. Un film, c'est toujours un choix. Et donc, qui dit choix, dit aussi des choses qu'on n'évoque pas dans le film. Mais je dirais que le film, en tout cas, est une clé de compréhension et d'ouverture vers un vaste sujet qui est la déportation, au sens large du terme, que ce soit en Belgique ou un peu partout en Europe.
De 1942 à 1944, 24 916 juifs, hommes, femmes et enfants, ont été déportés de Belgique vers Auschwitz. Seuls 1206 d'entre eux sont revenus, soit moins d'un sur 20.
Extrait du documentaire à voir ce soir, donc à 21h05 sur La 3, Caroline, c'est Modus Operandi.
Oui Laurent, là on est au tout début du film, on plante le décor. On le disait il y a quelques instants, le documentaire offre un point de vue exclusivement belge sur la déportation. Et si on se replace en 1940, il y a à ce moment-là 60 000 juifs sur le territoire belge. J'ai demandé à Hugues Lanneau qui ils étaient exactement, parce qu'il y a ceux qui sont belges, et puis beaucoup de nouveaux arrivants aussi.
Donc, dans cette population de 60 000 personnes, on a effectivement des juifs belges, mais la majorité des juifs habitant sur notre pays sont des juifs qui sont arrivés dans la fin des années 30, qui ont fui le régime nazi en Autriche, en Allemagne. Il y a pas mal de juifs d'Europe de l'Est aussi qui se réfugient chez nous. Et donc, on a un afflux de population vers la fin des années 30 qui devient conséquent, effectivement, pour atteindre plus ou moins le chiffre de 60 000 personnes.
Au début 40, quoi. Ouais, exactement. Alors, on peut dire que la répression à leur égard sera vraiment progressive, histoire de ne pas affoler la population. On commence par faire naître un sentiment antisémite au sein de la population belge. Comment ça se passe exactement ?
Alors, il faut savoir que dans les années 30, il y a un climat d'antisémitisme latent un peu partout en Europe, en France, en Belgique, un peu partout. Et donc, je dirais que même les pouvoirs en place à l'époque entretiennent ce climat un peu antisémite. Les Juifs sont un peu dénoncés comme étant les responsables de tous les maux de l'époque. Il y a une crise économique importante.
Sans précédent, oui.
Il y a une crise de régime, des démocraties en place. La population ne fait plus vraiment confiance en ses élites en place. Et donc, tout ce climat qui fait un peu furieusement penser à l'actualité de ces derniers temps est propice à ce qui va se passer pendant la guerre. C'est-à-dire que les Allemands n'auront qu'à se servir de ce climat d'antisémitisme latent. Ils sont dans un climat favorable, en tout cas, pour mettre en place toute cette mécanique de mort qui va se développer tout au long de la guerre pour déboucher sur cette déportation.
Qui a été bien calculée. Alors, on parlait de ce sentiment antisémite latent au sein de la population. C'est relayé aussi au cinéma, au théâtre. On en entend parler un petit peu partout. Alors, justement, les premières mesures discriminatoires, elles sont prises chez nous quand ? Il y a ce premier registre qui est mis en place, qui laisse présager le pire. À quel moment on décide de recenser les Juifs ?
Alors, il faut savoir que les premières mesures anti-juives mises en place dans le pays datent du tout début de l'occupation. On commence par définir ce qu'est un juif dans les premières ordonnances allemandes. Très vite vient cette phase de diabolisation de la communauté juive à travers la propagande allemande, des films, des expositions, que les Allemands mettent savamment en place pour déboucher ensuite sur de l'exclusion. Donc on exclut les juifs des professions libérales, de professions dans les administrations publiques. Donc les juifs sont progressivement mis au banc de la société. Et puis, graduellement, on va en arriver à recenser effectivement la population juive. Les Allemands vont s'appuyer sur les administrations communales, donc sur l'appareil d'État belge, pour recenser en trois temps la population juive. Et ces recensements vont servir vraiment d'outils pour identifier la localisation de tous ces juifs qui vont être raflés et déportés en masse.
Effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'on s'en est méfié trop tard ? Parce que lors du premier recensement, ce sont quand même les personnes juives qui vont spontanément s'inscrire dans des registres auprès de l'administration communale. On a l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a encore pas la moindre méfiance.
Non, il y a une confiance de cette population, comme le reste de la population belge d'ailleurs, envers les institutions en place, les institutions belges. Et donc, quand les administrations communales lancent cet appel à recensement, assez naturellement, les Juifs vont coopérer et vont se présenter spontanément aux administrations communales de leur ville. Et donc, c'est assez naturellement que la plus grande majorité d'entre eux vont aller se faire recenser.
Et au niveau des autorités communales, est-ce qu'on sent déjà le plan qui se prépare du côté des Allemands ? Ou est-ce qu'il y a encore à ce moment-là une certaine naïveté, en tout cas au début ?
Alors, la solution finale telle qu'on la connaît actuellement n'est décidée qu'en cours de guerre. Ce qui veut dire que l'objectif des Allemands en tout début d'occupation n'est pas encore clairement défini quant au sort des Juifs. Ce n'est seulement que pendant la seconde partie de la guerre, à partir de 1942, qu'ont lieu les premières déportations dans les pays qui entourent la Belgique. Et en Belgique, on commence aussi en 1942 à déporter des trains de Juifs. Mais les gens ne savent pas, et bon, à la lecture qu'on a actuellement des événements, on connaît l'issue fatale que ces gens ont endurée. Mais les gens à l'époque ne se doutaient absolument pas que les Allemands préparaient une véritable mise à mort à l'échelle industrielle de cette population. Donc, quand vous ne connaissez pas la fin, fatalement, vous êtes pris dans la banalité du quotidien et vous vous obtempérez. Ce n'est pas propre à la population juive. Je pense que n'importe qui, en temps d'occupation, quelque part, en évitant le pire, obtempère et en espérant que le lendemain soit meilleur.
Sur simple demande, l'administration belge fournit ce deuxième recensement aux Allemands. Les Juifs aurait-il été si nombreux à s'inscrire s'ils avaient su que ce tampon rouge allait changer leur destin quelques mois plus tard?
Ils sont allés sans réticence. Je ne crois pas qu'on s'est rendu compte, parce que c'est sur la base de ces listes-là qu'on a effectué les rafles. Donc là, ils avaient les noms et les adresses de tous les Juifs qui étaient enregistrés. Ceux qui étaient vraiment malins ne sont jamais allés. Et ceux-là n'étaient pas considérés comme Juifs. Alors il fallait qu'ils se procurent de faux papiers. Et... Ça n'était pas si facile. Rétrospectivement, on se demande comment est-ce qu'on a pu être aussi bête, comment est-ce qu'on a pu se faire inscrire, comment est-ce qu'on a pu aller donner suite aux ordres de déportation et se rendre là soi-même avec sa valise, avec son baluchon. Mais il faut se remettre un peu dans l'esprit du temps. Il n'y avait vraiment pas d'issue.
Ce fichier des Juifs aboutit ici, dans les locaux de la CIPO-SD, la police politique de la SS.
Modus operandi, c'est ce documentaire réalisé par Hugues Lanneau, Caroline, à voir ce soir sur La 3.
Oui Laurent, à 21h05 exactement, et la voix qui accompagne tout le film, c'est celle de l'actrice et metteur en scène suisse Marthe Keller, elle dont le père a quitté l'Allemagne avant l'avènement d'Hitler et dont la mère était très engagée contre le nazisme. Marthe Keller a eu à cœur de participer à ce film, même si visiblement ce travail de narrateur neutre s'est avéré beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait. Je referme la petite parenthèse pour en revenir donc au récit en lui-même. On a évoqué avec Hugues Lanneau les recensements des Juifs opérés depuis 1941 et qui n'auraient pas pu avoir lieu sans la participation active des autorités belges. Et ce sont ces mêmes recensements qui serviront, on l'entendait, lors des rafles. 25 000 Juifs seront déportés depuis notre pays. On est revenu avec Hugues Lanneau sur le moment où les déportations ont commencé.
Les déportations commencent dans le courant de l'été 42. Il va y avoir 26 convois. Donc en fait, vous le disiez, il y a 25 000 personnes qui vont être déportées sur l'ensemble de cette période, donc entre 42 et 44. Et les Allemands, en fait, regroupaient dans une caserne, la caserne d'Ossin à Malines, tous ces Juifs qui étaient appelés à être déportés vers Auschwitz. Et en fait, ces 25 000 personnes ont été déportées par convoi d'environ un millier de personnes. Donc il y a eu en tout 26 convois.
Alors, il y a quand même un événement à signaler. Donc, on le sait, dans ces convois, il y a des familles entières qui seront emmenées. On faisait descendre les hommes entre 15 et 50 ans. Et on sait que les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient directement conduits vers les chambres à gaz. On n'aura pas l'occasion, et c'est d'ailleurs pas le but d'évoquer l'ensemble du documentaire ici. Mais il y a quand même un élément marquant, c'est l'attaque du 20e convoi. Un événement typiquement belge, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce 20e convoi exactement?
Donc c'est effectivement un acte de résistance tout à fait unique en Europe. C'est le seul convoi de déportation qui a été pris d'assaut par des résistants. Donc en l'occurrence ici, c'est Robert Mestriot, qui est donc un non-juif, qui a décidé de passer à la résistance et d'organiser l'attaque de ce 20e convoi avec trois autres comparses. Et donc, ils vont, à l'aide d'un signal rouge, qui est un signal de destiné à faire stopper les trains, avec une lampe rouge, ils vont arrêter le 20e convoi. Ils vont réussir à ouvrir un ou deux wagons dont s'échapperont 17 personnes. Alors, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais avec le recul, c'est un fait extrêmement marquant, parce que c'est effectivement la seule fois que les Allemands ont été, quelque part... pris en défaut dans leur mécanique de déportation, à un point tel qu'après cette attaque du 20e convoi, les convois partiront de jour et plus de nuit. En fait, les Allemands, dans leur premier convoi, voulaient que ça se passe de nuit pour ne pas que la population panique et que ça se fasse de la manière la plus discrète possible. Donc effectivement, c'est un acte de résistance isolé, mais qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque.
L'évasion la plus impressionnante se produit à bord du 20e convoi, en conjonction avec un événement unique dans l'histoire de la déportation. Le train est attaqué. Cette attaque est menée par trois jeunes hommes, Georges Lifschitz, qui est juif, et deux de ses camarades non-juifs, Jean Franklemont et Robert Mestriot.
Je me suis dit, mais Robert, tu es complètement fou. J'avais raté deux examens à l'université. J'étais un peu vexé contre moi-même. Et je me suis dit, ben, comme ça, au moins, je n'aurais pas tout raté.
Le soir du 19 avril 1943, Armé d'un seul pistolet et de 7 cartouches, il dépose une lampe rouge le long de la voie. Signal d'arrêt d'urgence. Le conducteur de la locomotive stoppe le train.
Les risques étaient immenses. À ce moment-là, les Allemands ne tiraient pas. J'ai eu, disons, un peu d'émotion pendant une seconde. Et puis, en marchant sur ma crainte éventuelle, eh bien, le courage est venu et j'ai été ouvrir le wagon.
Robert Mestrieux a juste le temps d'ouvrir un wagon. 17 prisonniers s'échappent.
Puis des personnes aussi qui sont parties dans des trains avec des outils pour tenter de s'en échapper. Il y en a qui y sont parvenus. Il y a notamment des témoignages dans le film. Je terminerai par ça, Huglano. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en faisant ce film Modus Operandi ?
Je ne peux pas relever un élément marquant parmi d'autres. C'est un sujet tellement dense, tellement lourd qu'on ne peut pas isoler un fait. Je pense que c'est la globalité de cette histoire qui est complètement incroyable. On a tous une vision globale des événements. On a tous en tête ces 6 millions de Juifs déportés. Tout le monde connaît plus ou moins la grande histoire. Mais tous ces Juifs, ils venaient de quelque part. Et moi, ce qui m'a frappé en faisant ce film, c'est la manière dont les Allemands s'y sont pris pour quelque part banaliser cette exclusion, banaliser la manière de recenser, de regrouper ces Juifs dans des lieux comme cette caserne d'Ossin à Malines, et la manière dont ils s'y sont pris pour les déporter, pour organiser cette exécution de masse. Mmh. Donc ça, oui, c'est la manière dont l'occupant s'y est pris à l'époque qui, moi, m'a frappé le plus, effectivement. Ce n'est pas propre à notre pays. Je pense que dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, ça s'est passé plus ou moins de la même manière, avec certaines spécificités propres à chaque pays. Mais globalement, les Allemands, la mécanique, en tout cas, de déportation des Juifs, est quasiment la même partout. Autre chose, moi, ce qui me fait, ce dont je suis le plus fier par rapport à ce film, c'est que le film est devenu un véritable outil pédagogique qui circule dans les écoles de l'espace francophone belge. Et donc, il sert d'outil pour les profs d'histoire, pour les profs qui ont envie de sensibiliser leurs élèves à ce sujet. Mmh. Et ça, c'est ma plus grande fierté.
Il vous est arrivé d'aller dans des classes
oui,
pour en parler ?
Oui, bien sûr. Depuis que le film est sorti, on a assisté, Willy et moi, à des tas de séances scolaires. Et les débats qui s'en suivent sont passionnants. On sent à quel point les étudiants et les élèves sont réceptifs à cette histoire et en tout cas sont frappés par, quelque part, cette redoutable mécanique qui est décrite dans le film.
Et ce film, c'est donc Caroline Modus Operandi.
Oui, et vous le verrez si vous regardez le documentaire ce soir. Hugues Lanneau, le réalisateur, a choisi de reprendre les photos des Juifs déportés pour symboliser les convois. Ce sont des photos extraites des dossiers que tous les Juifs étrangers devaient compléter à leur entrée en Belgique. Des dossiers qui se sont avérés précieux dans ce cas-ci. Alors pourquoi ces photos ? Eh bien parce qu'on n'a pas d'image des rafles et déportations en Belgique, ou alors elles ont été détruites. Donc quasiment toutes les images de ces rafles, des personnes qui montent dans les trains, viennent de Hollande ou d'Europe de l'Est. Je vais récapituler en deux mots. Donc, Modus Operandi, c'est ce soir à 21h05 sur la 3, dans le cadre d'une soirée spéciale de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Juste après, vous pourrez voir un document de 1988, Auschwitz, la mémoire qui revient, sur le travail de mémoire opéré par les survivants des camps. Et enfin, un troisième documentaire, Auschwitz, 33 ans après.